Culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Je suis à nouveau avec Amélie Tserseg-Ranger du service patrimoine et médiation de la ville de Laval. Nous avons commencé à évoquer avec Amélie 1000 ans d'histoire de commerce à Laval. C'est tout à fait passionnant. Donc notre première émission était surtout basée sur l'évolution du commerce et quel était-il du Moyen-Âge à peu près à la Révolution. Et alors là, Amélie, vous allez nous parler de...
Alors là, on va passer la Révolution française et on va entamer la période qui va du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui va connaître l'apogée du commerce de proximité. On commence au début du 19e siècle, début oui, 19e. Tout à fait.
Ah oui. Donc on est toujours à Laval, est-ce qu'il y a toujours le lin, est-ce qu'il y a toujours la céramique? Tout a changé peut-être.
Tout a changé ou presque. C'est une période de bouleversement très important parce que Laval connaît une mutation urbaine avec des grands travaux, le développement de nouveaux quartiers. Et donc parmi ces grands travaux, il y a l'aménagement d'une grande traverse. Donc on avait évoqué lors de la précédente émission l'axe qui menait de Paris à la Bretagne qui passait par la Grande Rue. Napoléon n'en peut plus de cet axe qui fait trop de temps à ses troupes pour se rendre en Bretagne, il impose à la ville de Laval la construction d'une nouvelle route qui s'appelle la Grande Traverse. Et cette Grande Traverse, eh bien, va donner naissance à deux nouvelles artères que sont l'actuelle rue de la Paix et l'actuelle rue du Général de Gaulle. Et donc petit à petit, eh bien, cette Grande Traverse devient la nouvelle épine dorsale de la ville de Laval. C'est un symbole de dynamisme et les commerçants vont délaisser peu à peu le centre historique pour s'installer le long de ce nouvel axe.
Alors, c'était la campagne ou c'était déjà habité
Non, c'était alors côté rue de la Paix, c'était surtout des blanchisseries, des champs de blanchiment de toile de lin. Donc c'était pas spécialement habité. Il y avait quelques fermes, comme notamment la ferme de la Crossardière, hein, puisqu'on va prendre sur le pré de la Crossardière pour construire l'actuel pont neuf. Et puis côté donc ce qui va s'appeler la rue de Joinville, côté rue du Général de Gaulle, on est sur la frange extérieure de l'ancienne voie de communication, puisque après la Grande Rue, on descendait la rue Rennaise, rue de Rennes, vers le faubourg Saint-Martin. Il y avait quand même un petit habitat, mais c'était pas aussi rectiligne que là. Là, ça y est, c'est une grande artère rectiligne qui va être favorable à l'installation de nouveaux commerces. Alors, durant cette période, c'est une période donc avec des nouveaux commerces, mais on va garder un fil rouge, comme notamment l'importance du marché idéal. Hein. Par exemple, il y a une nouvelle halle aux légumes qui va se construire à la fin du 19e siècle en forme de fer à cheval à l'angle de la rue du Pain Doré et de la rue du Palais, donc ce qui correspond à l'actuelle pharmacie et au salon de coiffure, où tous les producteurs locaux vont venir vendre leurs marchandises. C'est un édifice qui était très caractéristique avec un toit conique, ça ressemblait un petit peu à un chapiteau de cirque. Et il a été rasé en 1891, puis remplacé par une nouvelle halle en haut de la place des Acacias. La grande halle en bois, toute brinque-ballante qu'on évoquait la dernière fois, a elle été rasée. On a aussi un marché au blé qui va glisser, qui va quitter le centre historique pour s'installer devant l'hôtel de ville et qui va être poursuivi par le marché aux fleurs qui va s'installer sur les petites promenades. Donc, de nouveaux marchés, de nouvelles enseignes de devanture qui vont rivaliser d'élégance. Beaucoup d'activités commerciales qui vont participer à l'animation du centre-ville, mais pas uniquement parce qu'en fait, comme on a plein de petits quartiers qui se développent, eh bien, chaque quartier va avoir ses commerces de proximité, pour employer des termes actuels, comme des bouchers, des charcutiers ou encore des boulangers. Et finalement, on va quitter son quartier uniquement pour les gros achats, comme des achats de vêtements, par exemple. Et donc, dans ce centre-ville, une grande variété de boutiques et de magasins. Des magasins qui sont assez bien achelandés, à moins ce qu'on pourrait croire, grâce au développement des transports, aussi bien du transport fluvial que du transport ferroviaire.
Et excusez-moi, quand vous parlez de l'hôtel de ville, en fait, il date de quand ?
Alors, l'hôtel de ville, il a été achevé en 1831.
Et donc, il y avait beaucoup d'animation devant, sur cette fameuse place,
quoi. Ah oui, très rapidement, dès la construction de l'hôtel de ville et de cette nouvelle grande traverse, ça devient la nouvelle place de Laval, ça devient le nouveau lieu d'animation et de commerce de la ville de Laval.
Mmh.
faire connaître eh bien, tous leurs produits, c'est le début de la communication, le début de la publicité. À la Belle Époque, par exemple, on a plusieurs moyens de se faire connaître. On va utiliser des enseignes ou des réclames qu'on va peindre sur les murs. On peut encore en voir d'ailleurs aujourd'hui. On va utiliser du papier à en-tête avec des en-têtes formidables, vraiment des choses très très jolies pour les factures. Ça donne envie de payer sa facture pratiquement. On va réaliser des images de collection qu'on va distribuer aux enfants et puis on fera des annonces aussi dans la presse locale. On voit beaucoup de photos aussi de ce début du XXe siècle avec des commerçants qui posent fièrement devant leur boutique en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs commis. Donc on a une certaine aussi fierté d'être commerçant à cette époque-là.
Et est-ce qu'on commence déjà à habiter loin de son commerce ?
Oui.
Ou est-ce qu'on habite à proximité ?
Ça y est,
ou la même maison ? Non ?
Voilà, ça y est, on va quitter un petit peu ce système qu'on avait au Moyen-Âge où on résidait au même endroit que son commerce. On va, bon, il y a encore, pour ce qui est commerce de bouche surtout, boucherie, boulangerie, charcuterie, là, oui, souvent, on habite au même endroit. Pour les autres, ce n'est pas systématique. On commence à s'éloigner. Alors justement, puisque nous parlons de ces commerces de bouche, ils existent toujours. On a des primeurs, nos marchands de fruits et légumes, nos marchands de quatre saisons. On en a beaucoup, notamment, qui étaient installés au niveau de cette nouvelle place, qui est l'actuelle place du 11 novembre. On a aussi des épiceries fines. On va avoir un palais qui va s'affiner, qui va rechercher de nouveaux goûts. Ces épiceries fines qui se trouvaient, par exemple, notamment au niveau du quai d'Avenière ou de la rue de la Paix, eh bien, vont proposer du chocolat. Le chocolat, ça y est accessible à tous à partir de cette période-là, grâce au développement industriel, à la chute du prix du cacao. Et donc, on va vanter à la fois les vertus nutritives du chocolat, ses effets bénéfiques sur la croissance des enfants et d'autres éléments qui sont un petit peu plus discutables peut-être aujourd'hui, comme une France fière de son empire colonial africain. Voilà, ces épiceries, il y en a vraiment beaucoup. C'est l'ancêtre vraiment de nos supermarchés. On a aussi une épicerie à la préfecture qui avait pour spécialité la vente de beurre breton, de mottes de beurre breton qui jouissait d'une excellente réputation.
Qui devait être salé, j'imagine.
Qui devait être très salé, je pense aussi, voilà. Et Joseph Bézier, l'épicier, n'hésitait pas à aller directement avec sa charrette à Vitré tous les lundis pour aller acheter ce beurre qu'il revendait ensuite dans son épicerie. Donc voilà, les épiceries qui se développent, les boucheries et les charcuteries qui continuent à être importantes, hein, des boucheries avec des vitrines, enfin un claire-voie qui était juste fermée par des grosses grilles, une viande qui était pendue à des crochets, de la sûre répandue par terre pour empêcher de glisser, tout en marbre et en bois, la caissière derrière une sorte de cabine en verre et avec des traditions religieuses qui sont encore importantes, comme par exemple au Jeudi Saint, on exposait des morceaux de viande et des carcasses décorées de papillotes ou d'écoliers en papier à l'approche des fêtes de Pâques. Et il n'y avait pas de frigidaire, bien évidemment, pas de réfrigérateur. Et donc, le marchand de pain de glace passait tous les jours pour conserver la viande. C'est fondamental parce que cette notion de conservation, elle est importante.
Elle est vitale.
Elle est vitale,
oui.
Voilà.
Oui.
Ouais. Et donc, il y avait aussi les charcuteries qui avaient aussi un rôle important. Par exemple, on a un témoignage de Bernard Vanier. Alors là, c'est un peu plus récent, qui était charcutier dans la Grande Rue. Donc, son père avait repris une charcuterie en 38 qui avait ouverte en 1908. Et il disait qu'il débitait à peu près 11 tonnes de cochons par an, ce qui correspond à 130 porcs. Quelque chose de très impressionnant. On en faisait 2,5 par semaine. On recevait le porc entier le soir qui avait été tué dans l'après-midi. Et donc, les abattoirs amenaient les deux moitiés avec les abats dans une bassine. Pas question d'avoir un camion frigorifique. Et c'est aussi une époque où les familles apportaient les bêtes qui étaient tuées à la chasse pour que le charcutier les prépare. Et donc, les charcuteries, notamment la charcuterie Vanier, eh bien, c'était un fournisseur direct. On traitait en direct. Il fournissait notamment les cliniques Saint-François et Sainte-Élisabeth, la maison d'arrêt et même les jésuites de la collégiale Saint-Michel qui se trouvait au niveau de l'actuel Carrefour Market.
Oui.
Boulevard Félix Grat.
Oui.
Les ovins, les caprins. Ovins encore un petit peu, mais caprins, il n'y en a plus du tout.
Où c'est
non.
Le charcutier ?
La volaille, on pouvait plutôt la trouver plutôt chez le boucher. a priori. Si, ça avait quand même encore une importance, notamment au moment des fêtes de Noël, avec l'oie ou la dinde. À côté de ces commerces de bouche, il y avait aussi l'habillement qui prend une part croissante dans le commerce lavallois, même si à cette époque-là, la garde-robe est encore assez légère, il n'y a pas encore beaucoup de pièces. Dans une garde-robe traditionnelle, on a généralement une tenue pour la semaine et une autre pour les dimanches. Mais les magasins d'habillement sont plutôt représentés dans la ville de Laval, avec des magasins spécialisés, par exemple, des marchands de chaussures comme La Botte d'Or qui se trouvait rue de la Paix. Certes, ils vendent des chaussures, mais ils les fabriquent aussi souvent. Alors, cette maison de la Botte d'Or avait une excellente réputation. On vendait des chaussures de luxe et de cérémonie, des chaussures pour la chasse, des guêtres et des molletières, toute une époque. On vendait aussi des chaussures hygiéniques pour l'hiver, des caoutchoucs, des produits miracles parce que bon, on fait mal aux pieds des gens, mais il faut aussi assurer le service après-vente quelque part, avec des baumes Fargex pour guérir les corps aux pieds sans douleur. Et donc, tout ça était fabriqué à l'arrière de la boutique, donc une petite manufacture qui employait une quarantaine d'ouvriers et d'ouvrières
Ah,
et
quand
qui
même.
produisait entre 80 et 100 paires par jour. Donc c'était pas du made in China quoi, c'était du local à 100% et avec vraiment une volonté de faire du travail de qualité, du travail de luxe. Alors cette manufacture fermera dans les années 1920, mais il faut savoir que à la belle époque, on compte à peu près 6 à 7 fabricants de chaussures à Laval. Donc c'est quelque chose que l'on n'imagine pas forcément
Oui, c'est
aujourd'hui.
très amusant de comparer avec la manière dont on vit maintenant.
Oui.
On va faire une pause musicale, Amélie, et puis nous reprenons dans quelques minutes.
Avec plaisir.
Vous êtes bien sûr Fidélité Mayenne. Je suis toujours en compagnie d'Amélie de Cersei-Granger, du service patrimoine et médiation de la ville de Laval, qui nous conte avec beaucoup de vie l'histoire du commerce à Laval. Et là, nous en sommes à 19e, 20e siècle. Nous avons vu différents magasins nouveaux s'ouvrir. Et alors là, nous allons continuer. Nous sommes toujours dans l'habillement
Nous
ou...
sommes toujours dans l'habillement, dans l'accessoire plus précisément, parce que c'est une époque où les femmes utilisent beaucoup d'accessoires. Notamment, on ne sort jamais tête nue. Donc, ça fait le bonheur des chapeliers pour les hommes et des modistes pour les femmes. Donc, hors de question, effectivement, de sortir en cheveux, c'est ainsi qu'on disait. Deux sortes de chapeaux, un chapeau pour tous les jours et un chapeau du dimanche pour se rendre à la messe. Alors, comme le chapeau coûtait cher, eh bien, on le gardait longtemps. Il fallait le soigner, changer le cuir à l'intérieur, changer le galon. Pareil pour la casquette que certains mettaient du lever au coucher. Elle était vissée littéralement sur la tête. Et il faut savoir que ça employait quand même beaucoup de monde parce que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'à Laval, il y avait quand même 7 chapeliers et 7 modistes. Donc, c'était quelque chose de très, très important. À côté des chapeliers, on avait aussi les gantiers parce qu'on ne sortait pas non plus les mains nues. On avait aussi les des magasins qui s'appelaient des parasoleries, donc comme la parasolerie moderne rue de Joinville, où on fabriquait des cannes, des parapluies. Alors les parapluies, non seulement on les vendait, mais on assurait aussi la réparation et le recouvrage, hein, toujours dans cette idée de on ne jette pas, mais on répare. Et c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour comprendre la mentalité de cette époque-là.
Et les ombrelles, non?
Ombrelles aussi également. Alors, les ombrelles, après la Première Guerre mondiale, disparaissent, mais au niveau de la Belle Époque, au moment de la Belle Époque, oui, tout à fait. Et puis, à côté de ces petits magasins, on a aussi des grands magasins. On est dans cette période de l'essor des grands magasins, comme on l'a à Paris, et ça descend vers la province, à l'image du magasin La Samaritaine. Donc La Samaritaine qui va s'installer à proximité de cette place qui est dynamique, hein, cette place du 11 novembre, là où vous avez actuellement le magasin Burton. Pour vous resituer,
Ah, il y avait une Samaritaine à Laval.
c'était
Je
une
croyais que vous
Sam...
parliez de Paris,
Non,
moi. Ah,
c'est
ok.
La Samaritaine à Laval
Très
qui s'y
bien.
installe donc le 1er octobre 1887 en remplacement d'un magasin de nouveautés qui existait déjà depuis un certain temps. Et donc La Samaritaine va être achetée à l'issue de la Première Guerre mondiale en 1919 par la maison Saint-Rémy d'Elbeuf. Et certains Lavallois anciens, je pense, se souviendront des magasins Saint-Rémy qui se trouvaient donc à cet endroit-là. On s'habillait dans les années 1930. On allait à Saint-Rémy pour habiller les hommes, les femmes, les enfants. Et Saint-Rémy avait la réputation d'être le magasin le plus important de la région. On avait aussi, au niveau de cette place du 11 novembre, un magasin qui s'appelait À la tricoteuse Mademoiselle Marida, là où vous avez l'actuel Crédit Agricole. Une maison fondée en 1840, donc avec trois grandes vitrines qui donnaient sur la place de la mairie, deux autres au niveau de la rue du Val-de-Mayenne. Alors c'était plutôt pour se fournir en accessoires. On y trouvait de tout, des chaussures, des gants, de la bonneterie française et anglaise.
Oh.
Donc attention, c'est très très précis.
Ouais.
Donc voilà, des grands magasins avec des choses assez amusantes et intéressantes. Et pour finir, on peut aussi citer le Grand Bazar de Paris avec sa façade monumentale, trois arches en plein cintre, le tout couronné d'un fronton avec un caducée que l'on retrouve au niveau de la rue du Général de Gaulle, à peu près au niveau du milieu de la rue du Général de Gaulle, là où vous avez, je crois, actuellement Buxy, il me semble. Et donc là, on trouvait
Avec trois grandes
trois
arcades.
grandes arcades, ouais.
On regardera mieux quand on passera
Ah,
maintenant.
faut toujours lever
Oui,
les
oui.
yeux, c'est ce qu'on dit à tous nos visiteurs et à tous
Oui.
les enfants à qui on fait des visites. Levez les yeux et observez. C'est très important. Et dans ce grand bazar de Paris, eh bien, on pouvait se fournir en articles divers, porcelaine, vaisselle, maroquinerie, parfumerie, ameublement. On y trouvait de tout. Et à côté de ces grands magasins, eh bien, il y avait aussi des débits de boissons. Beaucoup de cafés qui étaient souvent tenus par des femmes où l'on pouvait apporter son manger. Après une affaire, il était de coutume que le marchand et le client aillent traquer ensemble au bistrot d'à côté. Le samedi après-midi, c'était aussi fréquent qu'un commerçant accompagne son commis pour boire un petit verre de guignolet, un coup de cidre ou un petit verre de vin pour fêter la fin de la semaine. Alors, il y avait énormément de cafés, aussi bien dans le centre-ville comme le Café de l'Europe, le grand café de l'univers qui se trouvait à la place du Crédit Foncier avec un grand balcon au premier étage. Enfin, c'était quelque chose, quand on regarde des photos anciennes, qui était tout à fait impressionnant. Le café le plus insolite était sans aucun doute celui qui se trouvait au sommet de la Tour Rennaise. Donc on empruntait, on
Ah
y
bon?
accédait en empruntant un étroit corridor avec un escalier de plusieurs dizaines de marches pour arriver sur la plateforme de la tour d'où on dominait la ville. Ça devait être quelque chose de tout à fait
Oui.
extraordinaire. Mais il y en avait aussi dans les quartiers périphériques. Par exemple, on sait que dans le quartier de la Senelle-Cauconnière, il y avait un bar-tabac journaux qui était tenu par une certaine Madame Bansard. Donc on imagine que ça devait être quelqu'un qui avait beaucoup de poigne, qui faisait également office d'épicerie. Une fois par semaine, elle faisait office de charcutière. Elle fabriquait des rillettes, des saucisses, du pâté, du boudin. Elle vendait aussi des chaussures, des sabots, des blouses pour les femmes, des chemises pour hommes, des tissus et de la laine. Voilà, un commerce multiservice, comme on pourrait le dire aujourd'hui, et que l'on retrouvait dans la plupart des quartiers industriels de la ville, puisque ces derniers vendaient aussi le midi des portions pour les ouvriers et les ouvrières qui n'avaient pas le temps de rentrer chez eux et qui, du coup, ça leur permettait d'avoir un plat chaud et équilibré pour pouvoir continuer leur labeur durant l'après-midi. Bah, c'était café, épicerie, débit de boissons, marchand de journaux, enfin, c'était du multiservice comme on pourrait le dire aujourd'hui.
D'accord.
Et puis bah, pour finir cette présentation sur cette période qui va donc du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale, c'est une époque de révolution industrielle, de révolution des transports. Et donc il y a des nouveaux commerces qui vont apparaître en lien avec ce développement des transports, notamment en lien avec le développement du vélocipède. Donc à partir des années 1900, on constate un essor très important de la pratique du vélo à Laval. La mode est alors à la bicyclette sans chaîne, à l'image du modèle Clément Grand Luxe avec pneus Dunlop, hein, jantes en bois et aluminium, ainsi qu'à garde-boue. Et c'est le fameux modèle que Jarry aurait acheté chez Jules Trochon à la fin du 19e siècle. Donc Jules Trochon qui avait son magasin au niveau du quai Jean Fouquet. Et Alfred Jarry ne l'a jamais payé, malgré les multiples relance du pauvre marchand.
C'était un chenapan. Oui, c'était un
Et ce commerce d'ailleurs est devenu ensuite un garage automobile de Dion Bouton dans les années 1920. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, hein, c'est qu'au départ, au début du 20e siècle, on vend des cycles et ensuite on devient un garage automobile. Ça va être aussi le cas par exemple du magasin de cycles d'Émile Hardy qu'il achète en 1900. Et alors au départ c'est un magasin d'armes, de cycles et d'automobiles, un des premiers garages de la ville. Et dans les années 20, son fils Robert va se spécialiser dans l'automobile avec les marques La Licorne puis Renault. Et ça va être vraiment un garage emblématique du centre-ville de Laval qui disparaîtra dans les années 1990. Par rapport à l'automobile, on a non seulement donc des garages, mais on a aussi des selleries parce que nos automobiles, eh bien, elles faut recouvrir les sièges. Et donc, par exemple, on a la sellerie carrosserie Poulain, avenue de la Gare. On parlait tout à l'heure des peintures qui étaient encore visibles. Et si vous vous promenez en haut de la rue Crossardière, vous pourrez encore lire carrosserie Poulain. Donc, ça correspond à cette sellerie carrosserie qui ouvre dans les années 1920. Et c'est une époque, c'est le symbole vraiment de cette époque de transition dans les transports, puisqu'elle s'occupe aussi bien des automobiles que des voitures attelées. Donc
c'est drôle.
Ça illustre vraiment toute cette période qui montre la transition entre nos commerces du Moyen-Âge et d'époque moderne qu'on a évoqué précédemment, et puis les commerces tels qu'on les connaît plutôt aujourd'hui, qu'on évoquera une prochaine fois.
Très bien. Et alors, je rappelle à Amélie de Cersei-Granger qu'une publication va être faite à l'issue de toutes les recherches passionnantes que vous faites sur 1000 ans de commerce à Laval. Donc, une publication. Et à ce propos, si on a des témoignages ou des souvenirs, on fait un appel à la radio.
Voilà, exactement. Si vous avez envie de vous replonger dans cette période des années 1950 à 2000, envie de témoigner, de dire votre ressenti, ou si vous avez aussi des photos à nous envoyer pour cette publication, eh bien, nous les prendrons avec grande joie. Merci à vous par avance.
Très bien, merci. Et donc, rendez-vous pour une troisième émission autour de 1000 ans de commerce à Laval. Et nous évoquerons la période des années
50 jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup, Amélie.
Merci à vous, au revoir.